C'est juste que je vais continuer ce que j'ai fait la fois dernière. Je fais juste un bref rappel, parce que si je fais un rappel d'une demi-heure, ça ne va pas le faire. Donc j'avais reçu, vous avez dit, un appel d'un monsieur qui m'avait lu un passage très sympathique de l'Apocalypse. Alors, je ne sais plus si je l'ai mis après d'ailleurs. Voilà, c'était Il essuiera. Ben, je l'ai ici, je ne l'ai pas sur mon papier. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc Apocalypse 21, verset 4. Et donc très rapidement, ce monsieur, il me cite Apocalypse 22, versets 3 et 4, où il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Donc voilà, là ça tilt dans ma tête, je dis ok, c'est un témoin de Jéhovah en face. Et donc je vous ai expliqué après, pour faire court, hein, pourquoi Jéhovah, parce que c'est une erreur, simplement c'est une erreur de lecture, si on caricature. Mais les Hébreux donc ont pas de voyelles dans leur alphabet, et donc le nom de Dieu, celui qui est le plus employé en tout cas, dans l'Ancien Testament hébreu, il est écrit sous la forme des quatre lettres, Y ou J, hein, c'est la même chose, mais on a tendance à dire YHWH, donc les quatre consonnes, et à ça s'ajoute la complication que, alors les consonnes, ça c'est la version hébreu, hein, je vous la lis pas, à ça s'ajoute la difficulté que les Hébreux ont dit le nom de Dieu est sacré, ils sont basés sur le Lévitique, le Deutéronome, et donc ils ont pris a priori rapidement l'habitude de ne plus le prononcer pour pas être pas blasphémé en fait, pour pas mal l'utiliser et pas tomber sous le coup de la loi. Donc on a très rapidement oublié comment ça se prononçait en fait. Et ce qu'ils faisaient les Hébreux, c'est qu'ils le substituaient donc ce fameux tétragramme, les quatre lettres, par Adonai, qui est Seigneur, que nous on traduit par Seigneur en tout cas, mais c'est le sens, le maître. Donc il substituait par Adonai. Et donc plus tard, quand les Massorètes qui ont recopié la Bible, ils ont ajouté des tonnes d'informations hein, sur la Bible, ils ont compté les mots, les lettres dans les colonnes, dans les lignes, ils ont mis de la ponctuation, ils ont mis du. Enfin, de la ponctuation, ouais. Une forme de ponctuation, et ils ont mis la phonétique, comment ça se prononce. Parce que sinon, voilà, on peut. Bah, vu qu'il n'y a pas de voyelle, c'est un manque quelque part de l'alphabet, on pourrait oublier comment ça se prononce. Donc, ils ont ajouté cette information sur le texte, et donc, ils se sont retrouvés devant YHWH, et mince, on ne le prononce pas. Donc, ils ont intégré les voyelles d'Adonai. Donc Adonai, alors après il y a un jeu les voyelles A, O, A et le I final, et il y a un jeu de phonétique qui fait que ça se transforme en E, O et A. Et donc si on insère ça dans Y, H, W, H, on se retrouve avec les consonnes du nom initial de Dieu et les voyelles d'Adonai. Et donc on se retrouve avec quelque chose qui fait Jéhovah ou Yéhovah. On pourrait faire pareil, je vous avais dit, avec Elohim, qui est un autre nom de Dieu, hein, qui était aussi substitué. Un substitut de YHWH, et ça ferait Jéhovie, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas pris. Donc voilà, et donc Jéhovah, ça n'a pas de sens, c'est comme si on mélangeait deux prénoms, hein. Je vous avais fait un exemple avec Banane, je ne sais plus comment c'était, mais voilà. Donc ça n'a pas de sens, c'est deux noms différents, et on peut pas les mélanger, ça a juste aucun intérêt. Voilà, alors, on va arriver à la suite, qui est quel est ton nom? Alors je voulais parler des noms de Dieu. Et en fait, je me suis dit, comme on fait plus court, je risque de ne pas pouvoir tout faire, donc j'ai encore coupé en deux. Donc vous allez encore me supporter la fois prochaine, plus ou moins sur le même thème. Alors vous allez voir qu'ici, l'idée, elle n'est pas compliquée, hein, vous allez vite la comprendre. C'est que les noms, ils ont une signification. On va me dire, oui, c'est évident, hein, mais je pense qu'il faut bien intégrer quand on lit la Bible que, j'ose pas dire la totalité des noms, hein, mais pour moi la quasi-totalité, parce que je peux pas vous certifier qu'il n'y a pas un ou deux exemples où ça ne voudrait pas dire quelque chose, mais pour moi la quasi-totalité des noms veut dire quelque chose dans la Bible. Alors, dans Lucky Luke, pour prendre une image qui parle, vous avez des noms comme aigle boiteux, aigle joyeux, hirondelle gazouillante, œil de taupe, ça doit pas être très positif, hein. Petit taureau nerveux, bon, voilà. Pourquoi les gens ils sont appelés comme ça? On voit aussi chez les Schtroumpfs. J'ai peut-être mis. Ouais, les Schtroumpfs. Il y a Schtroumpf joyeux, Schtroumpf grognon, Schtroumpf à lunettes. Alors pourquoi on les appelle comme ça dans Lucky Luke ou les Schtroumpfs? Bah, parce que ça veut dire quelque chose, ça qualifie la personne en fait. Quand on voit le nom, voilà, Schtroumpf grognon, bah voilà, on imagine bien un Schtroumpf qui râle tout le temps. On a la Schtroumpfette, donc son nom indique que c'est la seule fille du village Schtroumpf. Je crois qu'il y en a une deuxième dans un épisode, mais bon, c'est une autre question. Donc voilà, les noms veulent dire quelque chose. Alors là, c'est facile parce que c'est directement en français, hein, mais les noms qu'on retrouve dans l'hébreu et même pour certains dans le grec, veulent dire quelque chose. Alors on va s'attarder là-dessus parce que je veux bien qu'on intègre ça dans notre mode de pensée. Donc Paul en a parlé la semaine dernière déjà, hein, il a déjà fait une introduction à ce sujet-là. Il a parlé de Josaphat, il a parlé donc Dieu juge, il a parlé de Michée, qui est la même racine que Michaël, c'est pour ça que j'ai retenu, qui est comme l'Éternel. C'est une question, hein, et ça amène la réponse évidente, personne, nul n'est comme l'Éternel. Et donc, dans toute la Bible, on peut s'amuser à ça, bon, ça ne va pas être rigolo à force, hein, mais si vous prenez votre Bible, alors j'aime bien la seconde, c'est la Genève 79, je crois, hein, où il y a toutes les petites notes en bas, et bah, vous pouvez quasiment tourner les pages et regarder, la moitié des notes en bas, c'est soit des références vers d'autres versets, soit des explications des noms, justement. Parce que sinon, nous, on rate quelque chose quand on lit le texte. Donc, c'est un premier point à retenir pour nous. Quand on lit le texte, si on croise un nom, ça veut dire quelque chose. Donc, ça a un intérêt de regarder ce que ça veut dire. Alors, dans certains logiciels, on peut avoir la signification, on peut l'avoir dans certaines versions des Bibles. Bon, je pense que la majorité des versions modernes, maintenant, il y a des notes en bas avec le nom. Alors, j'ai choisi un passage quand même pour l'illustrer de manière très concrète, même si on aurait pu prendre la moitié de la Bible. C'est Genèse chapitre 29 et à partir du verset 31. Alors ça va illustrer la guéguerre par enfant interposée entre Léa, Rachel, puis Zilpa, Bila, Jacob. Enfin voilà, c'est une guerre de famille au travers des enfants. Vous allez vite le comprendre, normalement vous le connaissez hein, ce passage. Donc Genèse 29, verset 32. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Et Ruben, ça veut dire « voyez un fils ». Car elle dit « l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera ». Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit « l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci ». Et elle lui donna le nom de Siméon, qui veut dire « entendre » ou « exaucer ». Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit « pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui enfantai trois fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi, ce qui veut dire attaché ou joint. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, qui veut dire louange de l'Éternel. Et elle cessa d'enfanter. Alors, on pourrait lire tout le chapitre comme ça, parce que ça c'est le côté Léa, hein, c'est le côté Léa, donc elle a plusieurs fils. À la suite et elle les appelle et voilà, elle les appelle clairement c'est presque un affront ou quelque chose qu'elle oppose à Rachel qui est l'autre épouse de Jacob en disant regarde, t'as vu, il va s'attacher à moi, garde encore un fils, Dieu il m'a entendu et voilà. Alors du coup ça montre encore un aspect du nom qui est aussi de rappeler en fait, ça devient quelque chose qui reste là toute la vie de la personne, ce nom il veut dire quelque chose et donc il rappelle quelque chose. Alors ça continue après, on ne va pas lire le passage, mais avec les enfants de Rachel, puisque Rachel après va donner sa servante pour femme à Jacob. Léa va donner sa servante aussi comme femme à Jacob, histoire que c'est celle qui a le plus de fils en fait, hein, et qui sera la plus aimée, parce que voilà, avoir des enfants, et ça l'est toujours, c'est une bénédiction. Mais voilà, là il y a l'idée dans la Bible de « au plus t'as un enfant, au plus t'es béni ». Donc celui qui en a beaucoup, c'est très bien, et la femme par qui c'est arrivé, c'est encore mieux. Donc Dan, c'est le fils suivant, qui veut dire juger, rendre la justice. Parce que Rachel a dit, Dieu m'a rendu justice et il a entendu ma voix. Nephtali, ça signifie luttant. Car Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Vous voyez, quand je vous dis la guéguerre entre les deux femmes par enfant interposé, c'est assez... Ça c'est nos patriarches, hein, les patriarches de la Bible. ils sont comme nous en fait, et ils ont besoin d'être changés comme nous. Ils ont été changés, ça s'est passé il y a un moment. Gad veut dire bonheur. Il a été appelé ainsi parce que Léa s'est écriée « quel bonheur » lorsqu'il est né. Azer signifie « heureux » et Issachar signifie « salaire, récompense ». Zabulon signifie « habitation » parce que la femme qui l'a eue a dit « maintenant mon mari va habiter pour toujours avec moi, maintenant que j'ai encore eu un fils ». Dina signifie « le jugement ». Joseph signifie enlever. Alors enlever, on peut dire, c'est négatif, mais en fait, le texte nous dit parce que Dieu a enlevé l'opprobre de Rachel. Donc comme elle n'avait pas eu d'enfants encore jusqu'ici en propre, elle les avait eu au travers de ses servantes. Là, c'est son premier enfant à elle avec Jacob, et donc elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre, et c'est ça que veut dire Joseph. Rachel a accouché de son deuxième fils dans la douleur et elle l'appelle Ben Oni, fils de ma douleur. Et Jacob, il va changer son nom, il va dire non, 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 je vais l'appeler Benjamin, fils de ma droite. Alors là, vous me dites, ok, ça, c'est tous les noms de personnes. Alors j'ai pris ce passage-là parce que c'est un concentré, en fait, hein, ça n'arrête pas. Et on voit bien l'intérêt que les gens, ils ont à nommer leurs enfants de cette manière-là. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là. Si on continue, je dis, on peut traverser toute la Bible et voir à chaque fois le sens des noms qui y sont. Et pour illustrer ça, j'ai juste continué quelques pages plus loin dans ma Bible, et on voit qu'en fait, ça s'applique aussi aux lieux et aux villes. Et c'est important de le garder en tête aussi, parce que du coup, à chaque fois qu'il y a une histoire et qu'on dit ils vont à tel lieu, bah ça a un sens en fait, ça veut dire quelque chose. Et donc, dans cette histoire, Jacob, donc il a épousé ses deux femmes, il a eu les enfants, mais il était toujours auprès de Laban. Et il a travaillé 14 ans pour avoir ses deux femmes, et il a travaillé un nombre d'années après pour avoir le troupeau. Et à un moment donné, il dit, voilà, Laban est plus ouvert à mon égard, je ne sais plus comment il le mentionne, mais et donc je vais quitter, je vais retourner dans mon pays. Et Jacob voulant retourner à Canaan, il se sauve de nuit avec tout ce qui appartient. Laban le poursuit, et à un moment donné, les deux camps se rencontrent. Alors heureusement, Jacob, il n'y avait pas grand-chose pour se défendre, hein, finalement, mais Dieu, il a intervenu dans la nuit, il a dit, Laban, tu ne touches pas, tu ne lui parles pas. Je pense déjà il est passé un peu à côté parce qu'il lui parle, hein. Il le rencontre et il dit « Tu sais, j'aurais pu te faire mal, mais Dieu il m'a dit de ne pas intervenir. » Et donc, ils se rencontrent là et ils font une forme d'alliance, ils font un autel en fait, hein. Ils offrent un sacrifice et le lieu il est appelé, il faut que je suive avec ça, ça c'était les noms des gens, le nom il s'appelle Jegar Shahaduta, avec un bon accent araméen, hein. Et il s'appelle aussi Galed. Et les deux veulent dire la même chose, en fait. C'est juste qu'il y en a un en araméen pour Laban, et il y en a un en hébreu pour Jacob, et les deux veulent dire « monceau du témoignage ». Donc c'est Laban, hein. Le texte dit « Laban l'appela Jegar Shahaduta, et Jacob l'appela Galed. Laban dit que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. » Et vous voyez juste après, on l'appelle aussi Mitzpah, parce que Laban dit « que l'Éternel veille sur toi et sur moi, quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. » Et donc le lieu s'appelle Mitzpah, et ça veut dire surveiller, veiller sur. Donc on pourrait retrouver comme ça tous les noms, tous les prénoms, et voir ce qu'on peut en retirer. C'est super intéressant. Alors après, voilà, on ne va pas juste lister ça, hein, sinon ça ne va pas être rigolo pour vous. Mais je voulais insister là-dessus. Et l'histoire continue. Je suis assez lourd, hein, mais comme ça l'idée elle sera bien, bien ancrée. Jacob continue son chemin. Et il a un endroit où il voit des anges de Dieu qui montent, qui descendent. C'est pas celui avec l'échelle, hein, mais il voit des anges de Dieu. Il dit, voilà, c'est le camp de Dieu ici. Et il donne le nom au lieu Mahanaïm. Et Mahanaïm, c'est le camp de Dieu. Si vous connaissez l'histoire de Jacob, vous savez qu'il se passe un quelque chose. Il fait passer un ruisseau, un fleuve, je sais plus, à sa famille pour les mettre à l'abri parce qu'il y a son frère qui arrive. Et le dernier souvenir, son frère voulait le tuer. Donc c'était pas... Voilà. Il met la famille à l'abri, lui il reste seul, et ça nous dit que pendant la nuit, il va lutter avec quelqu'un, et ce quelqu'un, ça se trouve être Dieu en fait. Et donc, Jacob, il va être appelé lui-même, il va changer de nom, il va être appelé Israël. Et Israël, ça veut dire celui qui lutte avec Dieu. On y reviendra après, hein. Mais voilà, Jacob, il comprend qu'il a lutté avec Dieu et pas avec un homme, et il a eu la vie sauve. Et donc ça percute dans sa tête. Il dit, mince, j'aurais dû mourir. J'ai vu Dieu face à face. Et il appelle le lieu Péniel, parce que ça veut dire face de Dieu. Il a conscience qu'il a vu la face de Dieu à cet endroit-là. Il rencontre son frère, et après, il va dans un lieu qui s'appelle Sukkot, qui veut dire cabane. Et ils habitent là-bas dans des cabanes. Et c'est pour ça qu'on donne le nom du lieu cabane. Petite dernière pour la route. Il retourne à Sichem. Et il achète la portion du champ où il avait dressé sa tente à l'époque, ou en tout cas où Abraham avait dressé sa tente à l'époque, et il élève un autel qu'il appelle El Eloé Israël, Dieu, le Dieu d'Israël. C'est en Genèse 33, verset 20. Donc vous voyez que, je vous dis, la quasi-totalité, voire la totalité des noms bibliques, que ce soit des noms de personnes, des noms de villes, des noms de lieux, des noms de cailloux des fois, des noms d'arbres, ils ont une signification. Et donc il faut absolument, quand on lit le texte, aller voir là-dedans, parce que c'est intéressant de savoir ce que ça veut dire. Si ça a un nom, c'est pour quelque chose. On vous dit, il y a une première utilité qui est le nom, il nous rappelle quelque chose. Tant que le lieu il est là, tant que la personne elle est là, on se souvient de ce qui nous est arrivé ou de ce qui s'est passé. Et ça permet de ne pas oublier. Alors, la pratique, c'est un peu perdu, hein, mais on a pas mal dans l'Église, finalement, de noms qui veulent dire quelque chose. Je pense à Emmanuel, hein, mais nous-mêmes, pour nos enfants, on a choisi Raphaël et Matthias. Raphaël, c'est Dieu guéri. Matthias, c'est cadeau de Dieu. Et moi, mon nom, je suis content aussi parce que Michael, c'était sympa aussi. Je ne l'ai pas choisi, mais voilà. Mais on a choisi ces noms-là, alors, parce qu'on les aimait. Hein, c'est un point, mais on les a choisis parce que ça avait un sens et que pour nous on était convaincus que Dieu guérit. Et appeler notre fils Raphaël, c'est un moyen de proclamer toute sa vie Dieu guérit et que voilà que ça puisse être utile entre les mains de Dieu, que ça puisse servir à quelque chose. Matthias aussi, un cadeau de Dieu, on l'a vécu comme un cadeau. On le vit encore, hein. C'est des fois plus compliqué certains jours, mais on le vit encore comme un cadeau. Donc voilà, je vous dis, on peut continuer en toute la Bible, hein, on va trouver toutes les petites notes et tous les noms, mais c'est pas l'idée. Je voulais juste prendre ce passage de la vie de Jacob et montrer que voilà, tous les noms, ils ont une signification et il faut les regarder, sinon on rate quelque chose du texte en fait. Alors le nom, il permet de marquer le coup et de se souvenir de ce qui s'est passé. Alors juste pour appuyer ça, hein, vous montrer que c'est pas juste des idées que moi j'ai, c'est Josué. Alors, il y avait Raphaël et Matthias. C'est Josué chapitre 4. Donc Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Donc ils ont passé avec le peuple le Jourdain à sec et ils ont pris des pierres qu'ils ont dressées à côté pour faire un autel. Et de souvenir, ils font un autel dans le Jourdain aussi, là où ils ont mis leurs pieds, pour se souvenir que Dieu leur a permis de passer à sec le Jourdain. Donc c'est presque une deuxième mer rouge, hein. Ils ont déjà passé la mer rouge à sec et Dieu répète le miracle à l'époque de Josué. Et Josué, donc, il dresse. Les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain, il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec, car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Et un peu plus loin, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Parce que Gilgal, ça veut dire rouler. Donc si on voit juste le sens comme ça, on dit rouler, bah pourquoi il l'appelait rouler? Et en fait, ça rappelle ce moment où ils ont roulé les pierres en dehors du Jourdain, et surtout que Dieu, il a roulé l'opprobre qui venait de l'Égypte. Donc ce verset, il nous montre que voilà, c'est un témoignage afin que les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et c'est que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel. Donc c'est double usage en fait, hein. C'est pour nous le prénom, pour que nous voilà, on se souvienne toujours du Seigneur, de ce qu'il a fait, et c'est pour que les autres se rendent compte aussi de ce qu'il a fait. Alors deuxième partie, un nom nouveau. Normalement, vous devez me voir venir gros comme une maison, mais c'est pas grave. Les noms ont une signification et parfois Dieu y change le nom d'une personne. Alors le nom le plus connu, enfin la personne qu'on pense en premier, à qui on pense en premier, c'est... Ah mince, j'aurais quasiment tout eu du coup, c'est bien. Il y a Pierre, Abraham, ouais. Paul, c'est vrai. Ah oh, bah tiens, Paul, j'y ai pas pensé quand je l'ai fait. Ouais. Et il nous manque un qu'on a mentionné tout à l'heure, qui est Jacob, qui a été changé en Israël. Alors le premier cas, c'est Abraham. Alors eux, c'est en famille, ils ont eu tous les deux leur nom changé. Il y a Abram et Saraï. Donc Abram, c'était le père élevé. C'est plutôt pas mal, hein. C'est déjà, ça montre une certaine dignité, presque une certaine noblesse finalement. Et il est devenu Abraham, qui veut dire le père d'une multitude. Et ça, ce nom-là, il l'a reçu. On lit ça en Genèse 17, verset 5. Il l'a reçu quand il a reçu la promesse de Dieu d'avoir une postérité. Donc son nouveau nom, il est symbole de la promesse qu'il a reçue. Et Saraï, qui voulait dire la noble, la distinguée, donc là aussi, hein, c'était plutôt pas mal, elle est devenue la princesse. Et quelque part, Sarah, en ayant un enfant d'Abraham, elle a intégré la lignée de Christ, en fait. Et elle a intégré la famille de Christ. Donc elle est devenue une princesse, effectivement. Alors, c'est intéressant parce que, au moins chez Abraham, Abram et Saraï, ou Abraham et Sarah, c'est plus facile pour nous, leur prénom initial, leur nom initial n'était pas mauvais en fait. Donc, c'était pas mauvais en soi, mais c'était un nom humain. Alors, il y a pire hein, comme nom. Celui que j'aime bien dans la Bible, c'est Nabal. Que Nabal, il est fou. Et c'est ce que son nom, c'est ça que ça veut dire. Donc ça, c'est sa femme qui va croiser David et qui lui dit, écoute, fais pas attention, il est comme son nom, il est fou. Voilà. Tous les noms veulent dire quelque chose. Donc, Abraham, voilà, c'est plutôt Abram, pardon. Je vais m'embrouiller avant la fin. C'était pas mauvais en soi, hein, ça valait pas Nabal, mais Dieu il donne quelque chose de mieux encore en fait. Et il donne quelque chose qui est le symbole de la promesse qu'il lui a faite. Il lui donne ce symbole d'ailleurs au moment où il a aucun enfant. Donc c'est un symbole, mais pas de ce que Dieu a fait, c'est même de ce que Dieu va faire. Donc finalement, Abraham, je ne sais pas comment ça s'est passé avec Sarah. Mais je ne sais pas, peut-être que Sarah avait l'habitude de dire, bah Abraham, tu fais... Ah non, non, tu m'appelles plus comme ça. Dieu, il m'a appelé Abraham. Bah ouais, mais ça fait 40 ans que je t'appelle comme ça, c'est compliqué. Oui, mais Abraham, c'est important parce que c'est le signe de la promesse. Là, on n'a pas d'enfant, mais Abraham, père d'une multitude. Donc c'est un point d'accroche, en fait, pour lui. Hein. C'est un rocher pour lui de se souvenir de ça et qu'il va avoir un enfant. Dieu accomplit sa promesse. Et Sarah, donc, de la même manière, en fait, hein, son nom, elle fait partie de la famille de Dieu et elle devient une promesse. Alors, Galates 3, verset 29, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous voyez que son nom, il est accroché à cette promesse d'un héritage. Et ce n'était pas juste avoir un fils physiquement. Vous savez, si on lit ce passage-là dans Galates 3, c'est parce qu'on est enfant d'Abraham, nous, en tant que chrétiens. Donc quand on dit père d'une multitude, ce n'est pas que le peuple juif, en fait, hein, c'est tous les chrétiens du monde. Donc la promesse, elle s'est accomplie d'une manière remarquable que lui-même pouvait probablement pas imaginer, en fait. Alors quel nom on porte, nous? Alors, on a notre nom initial, hein, donné par nos parents. Mais non, donné par nos parents, on ne choisit pas. Alors, des fois, on en est content, des fois un peu moins. Il y en a qui changent de nom de famille aussi. Bon, mais nous, quel nom on pourrait porter? De quoi est-ce qu'on est le symbole? Parce qu'Abraham, il était le symbole de ça. Sarai, elle était le symbole de la promesse de Dieu, d'une postérité qui allait être donnée. Qu'est-ce que ça représente, Michael, autour de moi? Ne me répondez pas, hein, s'il vous plaît. Sérieusement, qu'est-ce que ça représente? Ça pourrait représenter des mauvais souvenirs pour certains. Alors, peut-être que des profs qui m'ont eu à l'école vont dire, ah, Michael, oh, c'était... Il y a Pascal qui fait ça. Donc voilà, Pascal, ça s'accroche peut-être à quelques mauvais souvenirs à l'époque, j'espère effacer maintenant. Ou est-ce que ça se rapporte à un bon témoignage, Michael? C'est important, hein, quand notre nom, on le dit à quelqu'un, ah ouais, ça me rappelle. Une fois, on a un directeur national qui est venu chez nous, et puis bah, comme on est enfin, tous les chefs, on est obligé de manger avec lui le midi. Alors, je dis obligé parce que moi, ça me fatigue ces trucs-là. C'est très pompeux, puis les gens, on sent qu'ils essayent tous de se placer, de dire voilà quoi que ce soit. Et ce directeur, il arrive, et il me fait bonjour, monsieur Terrier, bien bonjour franc et massif, quoi. Mais on s'est déjà vu. Bah, j'ai dit non. Mais si, on s'est déjà vu à l'école de Polistan, machin. Bah, non, j'y suis jamais allé. Vous êtes sûr? Oh, vous me rappelez quelqu'un que j'ai bien connu, quelqu'un que j'aimais bien. J'ai dit, ah bah continuez, hein, continuez à me confondre, moi ça me va. Hein. Et du coup, il a gardé une sympathie pour moi, ce directeur, alors qu'il ne m'a jamais connu en fait. Mais le nom était accroché, ou la personne, mon visage, je ne sais pas, il y a quelque chose qui lui rappelait quelqu'un de bien. Et il est revenu une fois au labo et il était complètement en retard dans ses visites en fait. Et il arrive dans le bureau. Ah, Monsieur Terrier! Donc bah, déjà, je vois le Monsieur Terrier, son visage souriant. Et je dis, bah, vous voulez prendre un café? Oh, je suis en retard là. On est déjà en retard. On devrait déjà être à l'équipe d'après qu'on va visiter. Oh, un petit café, allez. Il s'installe. Et puis il discute. Et en fait, il est resté une demi-heure dans le bureau à discuter de manière vraiment normale. J'avais quelqu'un de tout à fait normal et pas un directeur national en face de moi. Et donc voilà, il y a quelque chose chez moi qui, voilà, par chance pour moi, était accroché à une bonne personne. Et donc c'est pareil, quand on dit notre nom, il y a des fois, bah, c'est pas nous, hein, mais les gens, ah ouais, ah un tel, pff. Ah non, c'est pas le même, ah d'accord, parce que celui-là, je l'ai connu à l'époque, mince. Et donc il y a des prénoms qui résonnent différemment en fonction de notre vécu. Mais notre nom à nous, comment il résonne auprès des gens? Ça doit rappeler les promesses de Dieu, ça doit rappeler sa fidélité, ça doit rappeler sa propre personne en fait. Ça doit parler de Dieu quand on dit notre propre nom. Et en fait, on devrait presque abandonner notre nom et prendre celui de Dieu, tout simplement. Alors, le problème, c'est qu'est-ce que ça colle vraiment? Là, on reprend la question dans l'autre sens, hein, on la retourne un peu, mais si moi, on m'appelle Jésus, ou hein, voilà, on va prendre Jésus, c'est plus simple, est-ce que ça colle bien avec moi? Ou est-ce qu'il y a un décalage et on dit, ah, ça lui va pas bien, ce prénom-là? Ah, il y a des Espagnols qui s'appellent Jésus, hein, c'est un prénom qui est donné assez facilement, d'autres pays aussi, probablement. Alors, on continue avec Abraham et Sarah. Ils ont eu deux fils. Il y a eu Ismaël, donc Dieu entend. Alors pourquoi il s'appelle comme ça? Parce que sa maman c'est Agar, et Agar elle a été maltraitée par Sarah. Elle a été maltraitée, elle s'est enfuie, elle est dans le désert et elle n'a plus d'eau, elle voit son enfant qui est en train de pas loin de mourir, elle a soif aussi, hein, et elle crie à Dieu, et Dieu entend, et lui montre un puits. Alors le puits prend un nom aussi, je ne l'ai pas noté, mais voilà, qui symbolise que Dieu s'est révélé à elle, lui a parlé, et son fils c'est Dieu entend, parce qu'il a entendu sa détresse et qu'il est venu l'aider. L'autre fils, c'est moins glorieux, parce que c'est Isaac. Et Isaac, c'est il rit. Il rit pourquoi? Parce que quand ils ont entendu la promesse de Dieu, Abraham et Sarah, ils ont ri en disant, mais moi, à mon âge, j'aurai un enfant. Vous voyez qu'on parle d'Abraham qui a reçu la promesse, dont le nom a été changé, et son enfant, il porte les traces de bah, presque son incrédulité à ce moment-là. Alors voilà, Abraham, il a avancé avec Dieu, hein, il a grandi, mais le nom de son fils, il reste accroché à ça. C'est terrible, hein? Donc il ne faut pas gâcher le nom que Dieu il nous donne. C'est ça enfin, c'est l'idée que je voulais en retirer, c'est que on peut avoir le nom transformé par Dieu, changé pour un nouveau nom, mais si derrière nos fils, ils portent les traces de notre incrédulité par leur nom, bah, c'est dommage. Alors Jacob, on est toujours dans la même famille, hein, on descend encore d'une génération. Jacob, il a eu pour fils Ésaü, parce qu'il était roux et velu. C'est aussi le nom d'Édom. Édom, ça veut dire roux. Et Jacob, qui est l'usurpateur ou le trompeur. Ouais, bah ouais, hein, tous les noms ne sont pas classes dans la Bible. Mais ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que son nom a été changé et c'est devenu celui qui lutte avec Dieu. Alors pourquoi ça? Alors, c'est un passage qu'on pourrait passer des jours dessus, je pense. Mais Genèse 32, juste le lire pour vous expliquer le pourquoi. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et il dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Ça déjà, c'est étrange, hein, on pourrait parler longtemps là-dessus. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Alors c'est intéressant parce que Dieu demande son nom alors qu'il le connaît très bien. Il change son nom, donc il rappelle bien, voilà qui tu es, Jacob, l'usurpateur, le trompeur. Maintenant tu deviens celui qui lutte avec Dieu. Et on sent dans ce passage que c'est pas négatif en fait. C'est pas juste t'es celui avec qui Dieu il doit galérer parce que voilà il arrive à rien. T'es voilà t'as pris conscience de quelque chose, t'as lutté avec Dieu pour obtenir la bénédiction. Et donc il y a une forme de positif là-dedans quand même. Et dans l'autre sens, Jacob demande son nom et il dit pourquoi est-ce que tu demandes mon nom et on ne le sait pas. Donc ça me faisait penser au témoin de Jéhovah, forcément on y revient, hein, c'était ça le tout début, qui insiste absolument sur un nom de Dieu en disant on doit absolument s'appeler comme ça. Et là, vous voyez que Dieu, il donne pas son nom. Et Jacob, il sait très bien qui il a croisé, hein, parce qu'il dit j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Donc ici, il y a aucune confusion à avoir. Donc c'est intéressant cette réflexion sur le nom et l'importance du nom. On y reviendra une autre fois. Alors, le cas suivant, on l'a entendu tout à l'heure aussi. Ah, bah, je ne vous ai pas passé la deuxième partie. Bon, bah, je vous l'ai lu. C'était Genèse 32, versets 24 à 30. Le cas suivant, c'est Simon-Pierre. Donc, ça, c'est un des cas du Nouveau Testament. Pour moi, j'avais vu que celui-là, mais c'est vrai que j'avais oublié Paul-Saul, qui a été transformé aussi. Et dans les deux cas, c'est Jésus qui change le nom. Donc, là, Pierre. On le voit dans Marc, on le voit dans Luc aussi. Marc 3, verset 16. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre. Alors, des fois il s'appelle Simon, des fois il s'appelle Pierre. Et c'est intéressant. Alors, après, on ne va pas faire des stats sur savoir quand est-ce qu'il appelle Simon, quand est-ce qu'il appelle Pierre. Mais à la fin de sa vie, il y a un moment qui est assez révélateur, on va dire. Donc là, c'est en Luc 22, et le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit: Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Et donc, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il l'appelle Pierre aussi, hein, dans le même passage. Mais il y a ce moment où, voilà, il annonce que Pierre va le trahir, et il l'appelle encore Simon, en fait, parce que c'est l'ancien Pierre, quelque part. L'ancien Pierre, bah, il était proche de Jésus, il l'aimait profondément, il avait vécu 3 ans avec, et voilà, là, ça sort de son cœur: mais je suis prêt à mourir avec toi, je suis prêt à mourir pour toi. Et Dieu lui dit: mais le Simon, il ne peut pas mourir pour moi, en fait. Il ne peut pas. Et plus tard, alors c'est dans Matthieu 16, mais c'est vrai que c'est plus tard dans l'histoire, puis quand Pierre confesse que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, Jésus, il dit, alors on va reprendre le passage plus loin, Matthieu 16, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Donc ça, c'est Jésus qui demande à ses disciples, et ils répondent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Donc vous voyez, on lui a attribué des noms, mais voilà, il y en a qui disent que t'es lui, lui. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Il rappelle toujours qui il est initialement. Alors Simon, c'est bien, hein, en fait. Simon, c'est Dieu entend. Donc ce n'est pas négatif non plus, hein. Il part pas de Nabal, on y revient. Il dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Vous voyez que là, il insiste sur le terme de Pierre. T'es Pierre. Et pourquoi il l'a appelé comme ça depuis le début? Parce que c'est à cause de cette confession qu'il allait faire. Alors c'est vrai que ça, c'est un verset qui sert à l'Église catholique pour dire c'est Pierre qui a les clés de l'Église et qui fait rentrer les gens ou qui les fait sortir. Mais on voit que là, tu es Pierre, et sur cette pierre, je sais que les deux mots sont pas les mêmes. Il parle de Pierre, et la deuxième pierre dont il parle, c'est cette confession qu'il vient de faire. Quand il dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, tu es le Messie, dans la traduction, tu es le libérateur, le Fils du Dieu vivant. Et c'est sur cette base-là que Jésus va construire son Église. C'est quand on est capable de dire ça à Jésus, quand on lui dit: ok, tu es le Christ, tu es mon libérateur, t'as payé pour mon péché et je le reconnais. C'est quand on dit ça qu'on passe dans l'Église, qu'on passe dans la famille de Dieu. Donc moi, j'y voyais dans ces versets. Le Simon qui était, voilà, qui était l'ami de Jésus, qui l'aimait, qui disait qu'il était prêt à mourir pour lui, mais finalement qui va le renier, et Pierre à la fin qui est mort pour Jésus, effectivement, qui est mort pour son sauveur, qui est mort pour son maître. Mais le Simon, il pouvait pas mourir, c'était pas possible, et il a fallu qu'il soit transformé par Jésus pour pouvoir le servir après et pour pouvoir mourir pour lui. Donc ce changement de nom. Et c'est la même chose pour Saul, qui a été transformé en Paul, hein. Là aussi, c'est Dieu qui lui change son nom. Donc vous voyez que ce n'est pas nous qui décidons, hein, aussi. C'est pas que nous, oh, tiens, moi je vais changer, Michael, c'était pas assez bien, je vais m'appeler quelque chose de mieux, je ne sais pas quoi. Bon, même si Michael, en vrai, c'est bien. C'est Dieu qui change le nom. Il nous donne un nom nouveau parce qu'il a fait une œuvre. En fait, ce changement de nom, il traduit l'œuvre qui a été faite dans notre cœur, il traduit un changement de personne, en fait. Parce que ce qu'on a vu depuis le début, c'est que tous les noms, ils ont un sens. Si on donne un nom à quelqu'un, c'est parce que, voilà, il s'est passé quelque chose à sa naissance, ou parce qu'il a une caractéristique physique qui fait que, voilà, il y a des tas de raisons, hein, on ne peut pas tous les énumérer. Globalement, c'est ça, c'est les circonstances de la naissance, et c'est des caractéristiques de l'enfant, le plus souvent. Donc, on donne un nom comme ça au départ, et c'est Dieu qui le transforme. Donc on ne choisit pas notre nom initial, on ne choisit pas où on est, on ne choisit pas comment on est, mais le suivant, on ne choisit pas non plus, c'est Dieu qui le choisit. Mais là, on sait que le choix est bien fait. Donc j'aime bien mon nom parce que c'est qui est comme Dieu? Point d'interrogation. C'est une question. Et avant d'être au Seigneur, quelque part, je trouvais déjà que mon nom était bien, quoi, parce que on me dit, bah ouais, qui est comme Dieu, ça pose une question intéressante, et oui, personne n'est comme Dieu, donc voilà. Alors, voilà, moi, j'ai envie de dire, je suis né dans l'église, mais ça fait tellement d'années, quand j'étais gamin, j'étais déjà dans cette église, que voilà, c'était bien, en fait, Michael, qui est comme Dieu. Mais le jour où on se rend compte que Dieu, il a payé pour nous, le jour où je me rends compte qu'il a payé pour moi, qu'il est mort pour moi, qui est ressuscité pour me donner le Saint-Esprit, une vie nouvelle, bah ouais, qui est comme Dieu? Personne. Mais personne n'y est comme lui. Et là, le nom, il prend un sens qui est différent. Vous voyez que j'ai pas changé de nom officiellement, hein, sur ma carte d'identité, mais dans ma tête, le nom, il résonne différemment. Il me dit, merci Seigneur pour ce nom. Merci. Je vais terminer. Donc, comme la fois dernière, j'ai envie de terminer avec des versets de l'Apocalypse. Alors, juste pris une note. Alors, je ne l'ai pas dans mon diaporama, parce que c'était ma lecture d'hier soir, en fait. Ma lecture d'hier soir, c'était Deutéronome 28, et c'était le verset 9. Donc, le passage, en fait, ça parle des bénédictions et des malédictions qui sont données sur les monts Ebal et Garizim, à l'entrée dans le pays promis. Donc, le peuple devait se séparer en deux, devait monter sur les monts Ebal et Garizim, et prononcer des bénédictions, et de l'autre côté, prononcer des malédictions. Et donc, dans les bénédictions, Dieu dit, voilà, en gros, si tu observes mes commandements, si tu fais ce qui me fait plaisir, eh ben, je te donnerai ci, je te donnerai ça, je ferai ça pour toi. Et Deutéronome 28, verset 9, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Donc ça aussi, c'est une question pour nous, hein. Quand les gens nous voient, est-ce qu'on peut dire qu'on est appelé du nom de l'Éternel? Vous voyez, on a vu des changements de nom, hein, mais on n'a vu personne qui est devenu l'Éternel derrière. Et pourtant, c'est ce qu'il a promis au peuple. En fait, il a promis de mettre son nom sur le peuple d'Israël. Et c'est quelque chose qui est valable dans le Nouveau Testament. En fait, on prend le nom de chrétien, en fait, hein, des petits Christ. On prend le nom de Jésus en devenant comme lui. Et est-ce que les gens voient Jésus au travers de nous? Est-ce qu'il pourrait nous appeler Jésus? On revient à la question de tout à l'heure. Et donc, dans l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Et un peu plus loin, on a presque une forme d'explication. Apocalypse 3, verset 12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Et on va être bien. On aura pas mal de choses écrites. Ce ne sera pas écrit la poste, hein, pour reprendre la pub. Ce sera écrit le nom de l'Éternel. Et voyez, on a lu ça dans l'Ancien Testament, on le relit dans le Nouveau. On voit au début de la parole, on le voit à la fin de la parole, en fait. Que Dieu, il veut écrire son nom sur notre front. Il veut écrire son nom sur nous. Alors, quel nom est-ce que Dieu nous a donné? Est-ce qu'il nous a bien donné le sien? Est-ce qu'on est digne de porter son nom? Alors, d'office, on va répondre non, hein, parce qu'on ne se sent pas digne. Mais est-ce que lui nous rend digne? Est-ce qu'il nous transforme? Est-ce que ma vie, elle lui fait honneur? Est-ce que les gens, quand ils me croisent, ils peuvent dire, ah bah ouais, c'est vrai que c'est Jésus. Il y a des témoignages de missionnaires, hein, comme ça, qui vont à un endroit, qui annoncent Jésus, mais tu me parles, là, je l'ai vu quelque part. Ah non, c'est pas possible, il m'aura 2000 ans. Et en fait, ils ont croisé quelqu'un d'autre qui ressemblait à Jésus tellement que ben, c'était Jésus pour eux. Donc, est-ce que nous, on est comme ça? Il y a du boulot, hein, il y a du niveau, mais c'est le but de Dieu, en fait, c'est d'écrire son nom sur nous. Je vais m'arrêter là. Seigneur, je te remercie de ta parole, Seigneur, de toutes ces questions de nom qui veulent dire quelque chose. Seigneur, ça nous apporte beaucoup de choses dans nos vies. Ça nous permet de nous souvenir aussi, avec notre mémoire qui est si courte, mais nous souvenir de ce que tu fais. Seigneur, merci de ce que tu fais dans nos vies avant tout, Seigneur. Tu nous transformes, tu nous laves de notre péché et tu nous rends semblables à toi. Et Seigneur, donne-nous d'être dignes. Nous ne pouvons pas l'être nous-mêmes, mais tu peux nous rendre dignes, Seigneur, nous transformer à ton image. Seigneur, donne-nous de ne pas attendre d'être au ciel et de ne pas se reconnaître. Mais Seigneur, que quand nous monterons te rejoindre, Seigneur, nous soyons déjà comme toi. Travaille nos cœurs, Seigneur, rends-nous comme toi, Seigneur. Amen.